pas pour toi ni frontières, ni distance, aucune des difficultés du voyage, et nous ferons abstraction du temps et de l'espace pour simplement accompagner le cours du soleil levé à l'Orient, couché à l'Occident.
Pour vivre une aventure radiophonique, prenez un endroit banal. Là vivent des gens anodins comme tant d'autres.
Maintenant, je vis ma vie, je vis la vie.
Seulement si vous restez, si vous écoutez les mots, les sons, si vous regardez avec les oreilles, vous quittez votre réalité de tous les jours pour entrer dans un autre monde, celui de la quatrième dimension.
C'est bizarre parce que de devant de la rue, on ne dirait pas du tout que c'est la maison comme ça.
C'est des façades et on ne se doute pas du tout que derrière il y a...
Il y a des beaux jardins.
Ou même des animaux, je ne savais pas qu'ils avaient été ici.
On enregistre là.
Bonjour. Excusez-moi, je cherche les archives nationales.
Je crois que c'est là
à gauche.
Ouais, c'est le nouveau... Oui, le bâtiment juste là.
Juste là. Vous y allez souvent, vous ?
Non, on n'a jamais été. C'est récent, hein.
C'est récent, oui, ça a ouvert il y a pas longtemps. Donc juste là à gauche.
Oui, la dernière porte là, bon, c'est des appartements.
Merci.
Voilà, de rien.
Bonjour, ou plutôt rebonjour. Louvain-la-Neuve, le mercredi 11 février. Le 6 février a eu lieu l'inauguration, en plein milieu de la ville universitaire, d'un nouveau bâtiment des archives de l'État. Les archives de l'État, nom à la fois simple et mystérieux, mais une des choses les plus fondamentales de notre société, sa mémoire notariale, judiciaire, ecclésiastique, politique même. Sur les 14 kilomètres que peut contenir le bâtiment, déjà 4 km d'archives sont entreposés à Louvain-la-Neuve et ce ne sont que tout ce qui concerne le Brabant wallon. Mélange de passé, bien sûr, mais aussi de notre vie quotidienne d'aujourd'hui, de notre futur même, puisque la conservation de ces archives a pour but essentiel de laisser des traces pour les générations à venir. Bref, de conserver des preuves, des informations, de la marche de notre société, quelquefois semblant anecdotique, mais la plupart du temps essentiel. Ici, pas de documents précieux, pas de choses qui ont du prix, ou très peu, mais des documents qui ont de la valeur, notre mémoire. Et à l'heure de l'informatique, la mémoire de notre société peut poser de sérieuses questions.
Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie des archives de l'État ou vous venez consulter ?
Non, je fais partie des archives.
Nous pouvons rentrer, vous croyez ?
Oui. Vous descendez ?
Oui.
Et il y a quelqu'un qui vous attend en bas.
Ah, fabuleux.
Voilà.
Merci.
On a les privés, les généalogistes, on a des étudiants.
Les passionnés aussi.
Oui, c'est les passionnés.
Et les tranches d'âge ?
Ça varie, il y en a pas mal dans la soixantaine qui font beaucoup de recherches personnelles, leur famille, etc.
C'est ça, plus une recherche personnelle ?
Dans le privé, et puis après, bon, vous avez tout ce qui est estudiantin, évidemment, vu qu'on est quand même dans une ville universitaire. Et pour le reste... Oui, on a des journalistes aussi qui font des recherches pour des publications, des choses de genre.
Donc, je veux dire, des recherches et des âges finalement quand même relativement diversifiés.
Oui, assez quand même.
Les étudiants sont généralement plus ciblés que...
Pour le moment, non, parce que, hélas, nous venons d'ouvrir. Mm-hmm. Donc, ils ont déjà fait des travaux de mémoire sur d'autres sujets. Donc oui, on espère qu'ils arrivent, je dirais pas en masse, parce que ce sera un petit peu exagéré, mais on espère en avoir beaucoup lors des prochains sujets, tout à fait. Avec les universités, je pense qu'il y a quand même un beau label de choix au niveau des sujets, donc il n'y a plus qu'à voir. On les attend.
Ah oui, alors on ne peut utiliser que des crayons, c'est
oui.
Ça ? Donc je dois vous laisser mon bic, alors ?
Oui, mais c'est dans votre veste.
Oui, donc en fait, vous, votre rôle, c'est, voilà, je veux telle archive, etc.
Les aiguiller au mieux, surtout.
Aller chercher l'archive en question voilà. Dans les sous-sols, les trésors.
On peut dire trésors, oui.
Est-ce qu'il peut y avoir... Je faisais un petit peu le parallèle tout à l'heure en venant avec le nom de la rose, vous savez, ce film de Jean-Jacques Haneau, où il y a la bibliothèque est rigoureusement interdite, non pas par un esprit de conservation, évidemment, par un jeu d'intrigue qui fait le film, mais aussi parce que contenant des documents qui ne sont pas aptes à être consultés par n'importe qui.
On ne se permet pas de juger déjà. Disons qu'on a des archives privées qui peuvent être déposées chez nous aussi, c'est-à-dire les grandes familles, les noblesses. Évidemment, tout un chacun ne peut pas se permettre d'aller dedans. Il faut des autorisations des familles et autres. Et je vous dis donc, la plupart des documents qui ont, eux, moins de 100 ans, il faut vraiment une autorisation bien spécifique, si c'est pour des recherches d'héritage, par exemple, une autorisation des communes, de la famille. Mais le tout un chacun ne peut pas voir ces archives, justement, pour le respect de la vie privée de cette famille et de ces personnes, tout simplement.
Donc, n'importe qui peut demander à avoir accès à une archive, quel que soit son contenu.
À condition qu'elle ne soit pas privée, évidemment.
Ni privée et qu'elle ait plus de 100 ans.
Il me revient en mémoire, il me revient une histoire, il me revient des images, un village, mon village, il me revient en mémoire. Je sais pas, comme un songe, cette histoire. Et voilà qu'au loin s'avance mon enfance. C'était, je crois, un dimanche. C'était, je crois, en novembre. Qu'importe, mais je revois l'usine. Oui, l'usine, ça dessine. Surgit du livre d'images, un ciel gris d'acier, une angoisse, et des pas lourds qui se traînent, et des ombres qui s'avancent. C'était, j'en suis sûr, un dimanche, c'était, j'en suis sûr, en novembre, et se détache une image, un visage. Ton visage, où allais-tu sur cette route, comme une armée en déroute, et tout devient transparence, et tu deviens une absence, tout me revient en mémoire, le ciel et novembre et l'histoire. Et les pas qui se rapprochent et s'avancent en cadence. Toi, où es-tu? Je te cherche. Où es-tu? Je te cherche. Toi, mon passé, ma mémoire. Toi, ressorti de l'histoire, qui était, j'en suis sûr, un dimanche. En novembre. Ton visage, toi, sur cette route figée, et les ombres qui se rapprochent, et les ombres qui te frappent et t'emportent. Il me revient des images, ce village.
Oui, mais les feuilles sont collées.
Oui, oui, il faut manipuler ça avec grande prudence. Parce que on pensait aux générations suivantes. Parce que si ça a pu être conservé encore en bon état jusque maintenant, eh bien, il est évident que on ne peut pas les abîmer.
Tel un moine d'une bibliothèque étrange, René Denis, passionné, consulte sur un pupitre un livre ancien dont les pages craquent, à la recherche d'un sens, d'une mémoire. Document notarial très ancien. Ne vous étonnez pas, dans la salle de lecture, on chuchote presque.
Contrat de mariage entre Nicolas Lejeune et Justine Vinquel de Tuy. Et nous sommes... Et nous sommes le 2 février 2023. 1882. Quittance, contrat, adjudication à la requête. Prêt.
Vente.
Et tout est noté avec une belle écriture.
Ah oui, ça.
Ça vous fait quoi de manipuler des documents qui datent de plusieurs siècles comme ça? C'est doit être assez...
Ben, ça fait plaisir.
Oui?
Oui. Ça fait plaisir. Ça donne une sensation d'enracinement.
D'enracinement?
Oui. Parce que il y a toutes les générations qui nous ont précédés.
Vous vous sentez pris dans une suite, une pérennité un
Absolument.
Peu.
Ouais. Absolument.
Vente par Henri et Jean-Baptiste Raison de Tubize à Léonie Tramazur du Dilieu, donc oui, de Tramazur, de cet art, oui, un peu du vieux français de temps en temps, de cet art de prairie à Tubize, prix 500 francs.
500 francs or, à ce moment-là, ah, oui. Pas.
Et vous faites des photos numériques? Oui. Vous avez le droit de faire des photos de
Une documents. Autorisation.
Ah d'accord.
Oui, mais j'ai demandé une autorisation et je l'ai reçue et maintenant je note au fur et à mesure et un document ici.
Oui, puis à la limite, ça évite de réouvrir à chaque fois le,
ben,
le
oui,
document.
Oui, et ça me permet de faire une recherche assez facile chez moi.
Sans avoir à revenir.
Ah oui, sinon je dois revenir souvent. Hein.
Un peu plus loin, une dame, elle aussi fort concentrée sur le document qu'elle consulte.
Non, ici ce sont déjà les mariages. Enfin, ça me fait rire.
Ah, ce sont déjà les mariages.
Oui.
Et de quelle année?
De 1600 jusqu'à 1700, c'est la même famille. Donc.
Ah oui, donc vous êtes plus versée dans la généalogie alors.
Oui.
D'accord.
René Denis continue, page par page, à photographier le document qui est devant lui. Mais qu'est-ce qui peut bien amener un retraité aux Archives nationales?
Pourquoi vous venez aux Archives nationales?
Ah, moi, je fais de la recherche d'histoire locale.
D'accord.
Dans le Brabant Wallon.
Dans le Brabant Wallon.
Oui. Et pour le moment, je suis occupé avec les actes de notaire. Parce que les actes de notaire sont une source excessivement intéressante. Parce qu'en fait, c'est la vie d'un village, n'est-ce pas?
Parce qu'il y a des ventes de ferme.
Il y a des ventes, il y a des baux à ferme, il y a des ventes de terre, il y a des contrats, il y a des testaments. C'est vraiment la vie au jour le jour.
Et là, c'est un. Vous avez repris l'année 1883. Pourquoi cette année-là particulièrement?
Ah, parce que je fais une recherche systématique depuis que le notariat existe.
Donc depuis fort longtemps.
Ah ben les premiers actes que j'ai pu consulter, c'est depuis 1713.
1713.
Mais il y en a de plus anciens. Mais disons, en ce qui me concerne, pour ma recherche personnelle, c'est 1713.
Et c'est une recherche, parce que vous êtes quand même d'un certain âge, sans dévoiler des choses, mais qui fait plus partie d'une passion, d'un hobby?
C'est d'une passion et un hobby, absolument. Absolument, et puis je fais partie de divers cercles d'histoire et d'archéologie. Et puis, de temps en temps, je publie quelque chose, un article.
Ah.
À la suite de mes recherches.
Donc, toujours au travail.
Toujours au travail, tant que je peux.
Et alors, pourquoi s'intéresser aux actes notariaux de... Vous êtes ancien notaire?
Non, pas du tout. Pas du tout, non. Je suis un ancien fonctionnaire communal, c'est tout. Mais seulement... C'est parce qu'il y a énormément de renseignements sur la vie quotidienne des gens.
Et c'est ça qui
c'est
vous
plutôt
intéresse.
Oui, c'est plutôt de l'histoire sociale, c'est pas de l'histoire événementielle, les guerres, les traités, etc. C'est entrer vraiment dans le vif du sujet, dans le vif de la vie des gens.
Comment les gens vivaient,
oui,
comment ça
absolument,
se passait.
Oui, absolument, c'est passionnant.
Claude de Moreau de Gerbeuet, chef de service à Louvain-la-Neuve, nous emmène au-delà de la salle de lecture dans les sous-sols du bâtiment. Là où sont conservées les archives.
Je pense qu'on commence par voir peut-être ce qu'on appelle des trésors en matière artistique.
D'accord.
Ce sont des tableaux de quartier de noblesse, donc des attestations que les prétendantes chanoinesses du chapitre de Nivelle devaient remettre pour être incorporées dans le chapitre.
Et Monsieur de Moreau sort avec beaucoup de précaution un parchemin rangé bien à plat d'un grand tiroir.
Et là donc, c'est en fait un arbre généalogique,
tout
c'est ça
fait, tout à fait.
D'une future ou d'une prétendante chamoinesse,
voilà.
Et qui a approuvé...
Elle doit prouver qu'elle a ses arrière-grands, que tous ses arrière-grands-parents sont nobles. Donc c'est un document qui était dessiné sur parchemin. C'est du parchemin, ceci, c'est pas du papier. Et donc, les armoiries étaient peintes, vous voyez, ce sont les armoiries du père, ici. Et puis alors, tous les arrière-grands-parents. Ce sont des grands lignages, hein. Vous avez les Croix, les Lignes, vous avez aussi les Lalin, ici, Berlaymont. Donc, ce sont toutes des grandes familles, et chaque membre féminin, on essaie de les caser dans l'une ou l'autre congrégation ou chapitre. Noble, il y en avait 3 ou 4 dans les Pays-Bas.
C'est un document de quelle époque, celui-ci ?
Celui-ci, je pense, est du début du XVIIIe siècle, à mon avis. Parfois, la date est inscrite au verso. L'inscription ici est un peu pâle. 1701, oui.
17.
Donc, c'est une sorte. Le fait que ce soit conservé, vous n'avez pas d'inscription admise, etc. Mais le fait que ce soit conservé dans les archives est une marque d'authentification suffisante.
Julie Godinas, elle, est archiviste à Louvain-la-Neuve et nous accompagne dans les sous-sols.
J'avais envie de vous poser une question un peu bête, mais vous venez de manipuler un document de 1701. Quelles sont vos impressions ?
Mais on le fait toujours avec un certain respect, puisque ce sont des documents très, très anciens qui sont parvenus jusqu'à nous parce que justement, quelqu'un, à partir de cette époque, en a pris soin. Donc quelque part, on est les héritiers de ces gens-là qui prenaient déjà soin des archives à cette époque. Donc c'est d'abord avec un profond respect qu'on le fait.
Respect.
Oui.
Soin et respect.
Et admiration aussi quand on voit le document lui-même. Puisque c'est un document plus en couleur, d'assez belle qualité. Quelque part, l'histoire, ça s'est écrit aussi sur base de preuves. Donc, voilà, ce n'est pas...
C'est important de garder les preuves.
Voilà.
Les preuves de ce qui s'est passé, les preuves des événements, les preuves... Parce que sinon, on ne sait rien, quoi.
Oui, à une époque où le négationnisme, le populisme, etc., hein, reprennent le haut du pavé, je crois que c'est aussi, en termes de civilisation, important qu'il y ait des endroits, des sortes de sanctuaires, comme on dit maintenant, où on conserve ça de façon rigoureuse. Parce qu'en cas de contestation, vraiment, s'il y a de gros problèmes, à ce moment-là, on peut venir chez nous.
Regardez, c'est inscrit.
Voilà, nous allons prendre l'escalier, si vous voulez.
Nous descendons d'un étage.
Il faut savoir ici que vous avez des chercheurs qui viennent travailler sur des documents très anciens, qui font de la recherche historique pure. Nous avons souvent des conflits de voisinage, par exemple, où on nous demande des documents parce que la haie mitoyenne se trouve... on ne sait pas sur quelle propriété elle se trouve exactement. Alors on essaye de retrouver des documents plus anciens. Des problèmes parfois de presbytères, désaffectés. qui était véritablement le propriétaire du presbytère. On a eu, il y a quelques semaines, encore une demande de jugement d'un enfant trouvé, hein, donc lui attribuant un nom de famille, etc. Donc, vous voyez, il y a des choses très concrètes qui touchent à la vie quotidienne des personnes. Et parfois, le fossé qui se fait entre les citoyens et les archives vient du fait qu'on imagine que l'on ne conserve ici que des choses très anciennes. La grosse différence, nous conservons des choses anciennes, mais nous pouvons aussi conserver des documents qui ne sont pas accessibles. Nous avons des documents très récents, hein, on a des archives judiciaires des années 80, même des années 90 ici, hein, mais elles ne sont pas accessibles parce que la loi l'interdit.
Est-ce que c'est un peu aussi le symbole de ce nouveau bâtiment, d'avoir une meilleure visibilité de cette nécessité d'archiver, de cette possibilité d'archiver et de cette, oui, de cette importance d'archiver et de ranger les choses et de laisser des traces pour, à la fois pour un temps court pour certains professionnels ou ceux qui en ont besoin et aussi pour, j'allais dire, la postérité qui... Parce que c'est vrai qu'on est un peu à l'heure du... Non seulement du tout tout de suite, mais où tout est très volatile. Hein.
Oui, oui,
on jette vite,
on
ne conserve pas.
Mais je crois que c'est le parti de cet emplacement. Et déjà, le fait de choisir Louvain-la-Neuve, cité nouvelle, cité universitaire, va dans ce sens. On a voulu que les archives se rapprochent. Non seulement de la jeunesse, hein, mais d'éventuels décideurs de demain, hein, qui suivent leurs études ici. Il est clair que nous ne sommes pas ouverts uniquement aux historiens, mais on pense notamment aux juristes, hein, qui ici vont trouver tout de même des gisements d'archives judiciaires très intéressants et très riches.
Parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand on est arrivé, on a interviewé quelques personnes dans la rue et... Les archives nationales ne savent pas où c'est, on ne sait pas bien à quoi ça sert, on ne sait pas bien non plus.
Oui, bon, là il est clair que le jour où nous intéresserons l'ensemble de la population, ce sera une révolution fondamentale, mais on n'y est pas encore et je crois que ce n'est pas non plus notre but. Notre but.
Oui, mais pourtant, si je veux par exemple retrouver l'historique de ma maison... C'est vers vous que je dois me
tourner. C'est ici que les pièces authentiques sont conservées. Tout à fait, tout à fait. En fait, et je l'avais dit lors de l'inauguration, nous sommes un petit peu une sorte de banque nationale de la mémoire, ici.
Une banque nationale de la mémoire.
Oui. Et je l'avais dit, nous ne conservons pas des choses qui ont du prix, mais des choses qui ont de la valeur.
Ce n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, non?
Une banque nationale de la mémoire. C'est cela, les archives nationales. Dans la salle de lecture, un homme, François Baptiste. Il est chargé par les archives nationales de numériser les documents ainsi... Plus besoin de sortir des livres anciens et fragiles. Tout sera accessible depuis un terminal d'ordinateur. Mais cette numérisation lui a réservé quelques surprises.
Donc moi j'ai travaillé depuis 5 ans à la mise sur intranet, c'est-à-dire dans tous les dépôts d'archives du pays, de toutes les données des registres paroissiaux, c'est-à-dire de l'ancêtre de l'état civil, hein, puisque avant l'état civil, les prêtres enregistraient tous les actes.
Ah, donc
avant 1796.
Avant 1796.
Avant la République française.
C'est ça.
Et dans ces registres, on trouve tous les actes depuis... faisons une moyenne 1620, à peu près, jusque 1796. Mais ça contient énormément d'autres données. Y compris des remèdes, y compris des remarques sur le régime politique, y compris des commentaires sur les épidémies, les tremblements de terre, les comètes, les aurores boréales en Ardennes, enfin, les inondations, les périodes de froid, enfin, tout ce qui concerne le climat.
Donc finalement, des registres paroissiaux qui sont beaucoup plus que ça, qui sont quasiment des... La vie au quotidien.
Ah oui, c'est une radiographie de la société. Et moi, j'ai encodé toutes ces données, page par page, depuis 5 ans, Donc ça fait 7000 registres, donc ça fait X millions de pages. Mais c'est très intéressant parce que le lecteur, en regardant le site et en affinant sa recherche, peut avoir accès à ces petites notes et en faire un sujet de recherche. Parce que même dans les actes, il y a des prêtres qui spécifient les conditions de la mort, les conditions de la naissance, l'illégitimité des enfants ou la légitimité, le vrai père ou pas. Hein, il y a les signatures, c'est-à-dire que ça permet de constater que 80% des gens signent avec une croix. Mmh. Donc ça permet aussi de faire une réflexion sur l'analphabétisme à cette époque-là, c'est malgré le métier exercé. Enfin bon, il y a un tas de choses. Mais il y a une sorte de, je vais dire, de l'archive, c'est un, comme dans les séries actuelles, c'est une glace sans teint. Vous voyez l'archive de l'extérieur, mais il y a d'autres sens à l'archive. Quand on a le temps de la décoder, parce que moi j'ai l'archive devant moi, l'original. Donc j'ai le temps de la feuilleter, de la numéroter, parce que la plupart ne sont pas numérotées, paginer, folioter et lire. En encodant tout ça, j'ouvre la recherche, ici à Louvain-la-Neuve pour le moment, à d'autres pans des archives, sans devoir sortir les originaux. Parce qu'il y en a qui sont en très mauvais état. On pourrait croire que c'est ceux qui sont plus anciens, mais c'est pas vrai du tout, c'est ceux du 19e, hein, où le papier n'a plus aucune qualité. C'est du... Tandis qu'au 16e, 17e, le papier, il est costaud. Hein, sauf l'humidité qui peut parfois... Donc c'est ça que j'étais chargé de faire.
Donc j'ai l'impression que du coup, votre rôle était un petit peu de d'ouvrir les archives à monsieur et madame tout le monde et à un autre public et peut-être à d'autres chercheurs qui n'auraient pas l'idée
Pour la mort aussi, c'est très important parce que si je prends... Donc si vous voulez, pour le moment, j'ai terminé l'encodage du Brabant wallon, de Liège, de Namur, de Huy, et je suis à la moitié de la province de Luxembourg. Donc ça fait 8200 registres. Ce qui couvre...
Vous commencez à être la mémoire vivante de la Belgique.
Disons que j'apprends moi-même beaucoup de choses. Mais je n'utilise pas ce capital-là. Mais le transmettre via les nouvelles structures du net, l'intranet, c'est effectivement ouvrir les archives. Parce que, par exemple, je prends dans le pays de Liège, hein, les morts du côté de Serein, du côté des premiers puits de charbon. Le prêtre qui était là spécifie chaque fois les conditions de la mort, des accidents dans les premiers puits de mine. Mais on est en 1670, hein, alors que habituellement, on place le début de l'industrialisation de la mine de charbon plutôt en 1780. Donc on recule de 100 ans. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est le tremblement de terre. Parce qu'on fait une banque de données commune avec l'Observatoire Royal de Belgique. Moi, j'ai relevé chaque fois les séismes. Il y en avait qui étaient connus. 1692, c'est un séisme qui a fait bouger toute la Belgique. Mais il y en a d'autres, 1733, on ne savait pas, 1712, on ne savait pas, qui ont des magnitudes assez fortes, semble-t-il, selon les prêtres. Mais tout ça est transmis à l'Observatoire Royal, qui en fait des statistiques. Alors, la comète de Halley, il y a des prêtres qui mettent quelques mots avec un petit dessin de la comète, hein, et qui mettent en latin, cette nuit, la comète est passée. Vous savez, c'est... Évidemment, il faut savoir interpréter tout ça. Mm-hmm. C'est mon boulot. Mais quand vous tournez une page, que vous avez des baptêmes, des baptêmes, des baptêmes, tout d'un coup, entre deux actes, il y a
un petit mot,
un petit entrefilé, avec un dessin ou pas, ou avec une croix, ou avec un point d'exclamation qui dit « note », ils mettent souvent « note ». Et ça sort tout à fait des actes de baptême. Ils le mettent parce que ça correspond à la date du baptême qu'ils ont effectué. Donc en fait, quand j'arrive le matin à mon bureau et j'ouvre un registre, je ne sais jamais ce que je vais y trouver.
comme quoi une archive peut cacher de bien belles surprises. Un peu plus loin, une dame.
Je peux savoir pourquoi vous venez ici aux Archives nationales?
Je viens pour des recherches en généalogie, des recherches historiques, des recherches historiques liées à la généalogie.
C'est-à-dire?
Par exemple, consulter les archives des greffes scabinaux pour trouver plus d'informations sur les ancêtres.
Vos ancêtres ou bien alors?
Mes ancêtres, oui, c'est ça. Et des ancêtres de personnes que je connais. Et de leur voir un peu leur environnement et l'environnement dans lequel elles évoluaient à ce moment-là.
C'est ça, donc pas seulement l'arbre généalogique simple, mais aussi quelles étaient leurs vies, quelles étaient leurs préoccupations,
ça.
Et puis un peu les contextes dans lesquels elles ont vécu.
Certains détails sur leurs biens peut-être, sur ce qui leur est arrivé, ou des choses comme ça.
Et alors pourquoi faire appel aux Archives nationales?
Parce que c'est ici que les archives, donc les pièces des greffes scabinaux, sont déposées. Et donc c'est logique de venir ici.
Donc là, vous vous installez avec votre loupe. Vous avez commandé...
Éventuellement, oui. Oui, j'ai commandé les documents la semaine dernière. Et normalement, ce sont les documents du XVIIe siècle.
Du XVIIe. Donc
oui.
Vous êtes déjà remonté jusqu'au XVIIe.
Oui, c'est
siècle.
Ça. Et donc, je vais les consulter. Et puis, voilà.
Et alors, quand il s'agit de vous, de faire des recherches généalogiques, bon, c'est bien, je sais bien que la généalogie est un peu à la mode, mais c'est plus souvent... par plaisir, par hobby, etc.
Oui, c'est ça.
Est-ce que, quand ça concerne sa propre famille, ça apporte quelque chose en plus, je veux dire,
Ça dépend évidemment de la perception de chacun, mais pour moi, oui, parce que c'est un retour aux sources, c'est plonger dans les racines, et puis c'est la curiosité de découvrir ce que nos prédécesseurs dans la grande chaîne des générations ont fait.
Et c'est important pour vous?
Oui, tout à fait. Oui, c'est une démarche personnelle.
D'où on vient et...
Absolument.
Oui.
Oui. Je suis d'origine de la terre, c'est peut-être pour ça.
C'est peut-être pour ça.
Une famille de paysans, et donc voilà. Et vous autres, vous êtes de quelle?
De la RTBF.
Ah bon?
C'est la première.
Ah
et
oui,
nous
d'accord.
Nous avons une émission aujourd'hui sur les archives nationales. Donc on vous voit, on vous a quasiment...
Oui. Ah oui, mais on a attendu l'ouverture de ce dépôt pendant... Moi, je suis Nivelle, j'attends ça depuis 9 ans, hein. Oui, au moins. Et puis c'est bien parce qu'ici, toutes les archives du Brabant Wallon maintenant sont rassemblées, donc ça c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, l'environnement est très beau, donc c'est chouette.
Et plus lumineux, plus clair.
Oui, tout à fait. Tout à fait,
donc
oui.
Là, vous allez aller à la...
Au comptoir, là.
Au
normalement,
comptoir.
Ils m'ont gardé encore une pièce. Et bon, tout de suite, je peux vous montrer si vous voulez.
Eh bien, allons-y.
Attendez, je vais... Il faut que je repère mon numéro.
Numéro de document.
Oui, c'était le 6873, normalement. Mais je n'ai pas fini. On va voir s'ils l'ont gardé.
Georges Perec, un Oulipo, joueur de go, un écrivain very high-tech. Je me souviens de la musique, du mépris, un long travelling à Chinechita, un générique. Je me souviens de Cole et Mitterrand qui se tenaient par la main, c'était à Verdun. Je me souviens d'allons enfants, de la patrie et de vos armes, etc. C'était Gainsbourg en ce temps-là. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Je me souviens qu'une fatwa condamne Salman Rushdie parce qu'il écrit, parce qu'il écrit. Je me souviens de Jean Gabin qui dit de beaux yeux tu sais, et que 50 ans plus tard une romancière lui répond baisse-moi. Je me souviens de Signoret, ma voisine de la place Dauphine, et que la place Blanche a mauvaise mine. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Je me souviens de Valessa, Solidarno, chez Sakharov, la tache de vin de Gorbatchev. Je me souviens que l'Enola Gay est un avion qui relie à Hiroshima aux USA. Je me souviens, je t'ai rencontré, t'étais blonde comme les blés, je t'ai embarqué. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir.
Louvain-la-Neuve, archives de l'État, troisième sous-sol, température 16 degrés, éclairage aucun, sauf quand on en a vraiment besoin. C'est ce qu'il faut pour une conservation optimale des documents et surtout, étonnamment, des plus récents, souvent les plus fragiles. Julie Godinas et Claude Demoreau nous guident dans ce labyrinthe. Archives ecclésiastiques.
Donc ici, les archives ecclésiastiques, en fait, ce sont principalement les archives des institutions qui ont été nationalisées à la fin du XVIIIe siècle. Donc se trouve ici, le Brabant wallon était terre d'abbaye, hein, Villers, Elissem, La Ramée, etc. Et donc, lorsque ces institutions ont été nationalisées, tous les biens ont été acquis par l'État, qui lui-même les a revendus, à des bourgeois qui se sont enrichis, qui sont devenus en bonne partie les grandes familles de propriétaires fonciers du Brabant wallon. Mais donc, on conserve ici toutes les pièces de gestion de ces abbayes.
C'est ça, c'est ce que j'allais demander. C'est surtout les pièces de gestion, les livres, des bibliothèques, etc. Là, non.
Ce n'est pas nous, ça, effectivement. Tout ce qui est manuscrits, bibliothèques, etc., c'est parti dans soit des bibliothèques publiques ou ça a été vendu directement. Mais ça, ce n'est pas le rôle des archives de l'État, normalement.
Alors là, vous nous sortez donc archives ecclésiastiques de quelle année? On ne sait pas.
Alors, on va découvrir.
Je vous aide à tenir la boîte en bas.
Voilà.
Avec un magnifique livre,
oui, il s'agit
entièrement en cuir,
du livre des bois du chapitre Sainte-Gertrude de Nivelles. Donc vous avez ici...
Oui, je tiens, là-bas.
Le plan figuratif des bois qui appartenaient au chapitre de Nivelles, avec une description... Voilà.
Ah oui, alors avec tous les petits arbres qui sont dessinés, et puis des petites descriptions.
Donc vous avez chaque fois un blason avec la description donc de l'endroit où étaient plantés les bois de l'abbaye.
C'est incroyable.
Ce sont les plans de l'époque et donc ça date du XVIe siècle. Donc ce sont des bornes en fait.
C'est une sorte de pré-cadastre, si vous voulez. Et justement, là aussi, c'était des documents qui servaient à aller en justice éventuellement lorsqu'il y avait conflit avec conflit de voisinage. Et à l'époque, les bois étaient ceinturés soit d'un fossé, qui est d'ailleurs très nettement représenté, une sorte de sillon. Et de temps à autre, lorsque l'institution était suffisamment riche, on plantait également des bornes. Mais bon, tout le monde sait bien, les agriculteurs, les premiers, que les bornes se déplacent également. Et alors parfois, c'était des arbres remarquables qui servaient de délimitation. Alors on donne parfois une description plus spécifique, par exemple une essence différente, un noisetier, par exemple, au milieu d'une autre essence.
Et donc, Clara, rappelez-moi, nous sommes en 1700...
Au XVIe siècle.
En 1500.
Je crois que la date est sur la première page. 1522.
2. Oui, donc ça, c'est vraiment à la fois un relevé cartographique, à la fois un titre de propriété, à la fois, oui, une preuve de soigneusement conservée par l'abbaye pour bien dire ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous.
Voilà, en cas de contestation.
Voilà, alors, voilà. Ah oui, il faut le refermer, du coup, le coffre de bois.
Voilà.
Voilà, et alors 1225, 1220
1925 bis, donc il va ici, en fait.
Il va ici. Ah oui, 1925, 1926, 1925 bis, voilà.
Voilà. Et ça, donc, ce sont les cotes qui renvoient aux inventaires. Donc, quand
c'est
les
ça,
gens commandent...
1912 n'a rien à voir avec l'année 1912.
Ah non, pas du tout, non.
À voir.
Non.
Mais c'est simplement, c'est que c'est le document... Enfin, la boîte contenant les documents...
1912, voilà.
1912. Oui, là, je sors officialité de Nivelles.
Donc ça, c'est une institution ecclésiastique qui existe toujours actuellement, d'ailleurs, qui est un tribunal ecclésiastique qui siégeait à Nivelles.
Tribunal ecclésiastique à Nivelles. Et donc, en fait, ce sont les minutes de...
Voilà, voilà.
Le bon...
Le sous-marqué Nicolas Biurge, jeune homme, à Marie, résidant à Genappe, paroisse de Houé, donne par 7 charges et commissions au notaire de Genève,
résident
au Genappe, à l'effet de se transporter vers la personne de M. Dauchamp, révérend pasteur
actuel du dit
Houé,
oui.
Auquel il fera défense pour qu'il n'ait à donner à Catherine Ranson, sa paroissienne, aucune lettre ou
dépêche,
oui,
pour procéder à
un mariage, ni beaucoup.
Ah d'accord. C'est en fait, j'ai l'impression que c'est un monsieur à qui on interdit formellement d'harceler une paroissienne.
Voilà,
quoi, en
voilà.
Clair.
Généralement, d'ailleurs, encore actuellement, les officialités se prononcent sur la validité et éventuellement les annulations de mariage. Donc, du point de vue canonique, donc, il y a le mariage civil et il y a le mariage religieux. Et dans le cadre des mariages religieux, c'est l'officialité qui se prononce sur la validité ou non des mariages. Mais bon, il y a tout ce qui touche, je dirais, non seulement à ce contrat.
Et là, quand même,
contrat.
Nous sommes en 1760,
c'est ici.
On sent les qualités de papier différents, hein, rien qu'au toucher.
Oui, parce que comme les documents viennent effectivement d'horizons très différents, puisque ça vient de paroissiens, bon, certains utilisaient du papier de meilleure qualité que d'autres. Hein, donc c'est bien la preuve que ce recueil, en fait, est constitué de pièces très différentes. Ce n'est pas un livre rempli page après page.
Oui, alors c'est absolument passionnant, mais j'ai envie de dire quand même assez difficilement exploitable, non ?
Oui, c'est un peu la problématique de ce que nous conservons, en ce sens que nous avons parfois des lecteurs qui viennent et qui pensent qu'on va leur donner immédiatement les pièces qu'ils recherchent, les documents qu'ils recherchent sur les personnes qu'ils recherchent. On ne fonctionne pas du tout comme ça, c'est-à-dire que nous n'avons pas des rayonnages où, par exemple, les documents seraient classés par ordre alphabétique. Des noms de personnes ou des noms de lieux. Mais il y a toute une démarche préparatoire qui doit être effectuée. Et donc les chercheurs doivent commencer par travailler sur inventaire. Nous avons, nos fonds sont classés par institution productrice d'archives. Et donc il faut savoir quelle institution peut fournir des documents qui peuvent leur venir en aide.
Alors attendez, donc 38, 39, je suis 40, donc avant 41, c'est ça ?
Surtout, ranger l'archive au bon endroit, à la bonne référence. Dans la salle de lecture, François-Baptiste continue son travail. lire les registres paroissiaux et prendre des notes pour ensuite les encoder dans la base de données informatique. Et finalement, étonnamment, ce n'est pas la liste des baptêmes, mariages ou enterrements le plus intéressant.
C'est tout ce que contiennent les registres. Mais au brouillon avant de les encoder. Donc il y a vraiment, je vous dis, il y a de tout. Donc tout ce sont des actes, mais ici j'ai des remèdes. Une chronique de 1628. La destruction des hôtels de l'église en 1672. Des réflexions personnelles sur la révolution, ici. En 1806, donc la vision du prêtre en disait dans tout. Tous les enfants en bas âge qui sont morts, donc très très jeunes. Et de quoi ils sont morts, très important.
Donc peut-être une épidémie.
Oui, oh, c'était l'épidémie, les épidémies les plus courantes. Enfin, j'ai vu, c'était les fièvres diarrhéiques. C'était terrible.
Et donc là, dans un premier temps, vous lisez, vous notez tout.
Je note tout.
Et puis après.
Et puis j'encode.
Après, il y a la procédure d'encodage.
Voilà. Et c'est un logiciel qui a été mis au point aux archives, qui est très précis au sens où vous avez une fiche pour le registre lui-même et une fiche pour son contenu. Vous avez deux cellules, et dans la fiche pour le contenu, vous pouvez cliquer pour chaque fois que vous changez de partie du registre, et vous avez à votre disposition une quarantaine d'occurrences pour désigner ce que vous lisez. Donc ça va de l'acte de baptême jusqu'à l'exécution publique d'une sorcière, jusqu'à au jugement d'un hérétique, jusqu'au compte des dépenses, jusqu'aux notes personnelles, jusqu'au mariage. Mais il y a d'autres choses. Toute la période où le protestantisme est né et s'est répandu, surtout très fort dans le sud, chez nous, du côté d'Arlon, Virton, etc., vous avez des villages où les deux
tout
cultes
dans les années,
roulant, ça a duré jusque 1750, ça a commencé beaucoup plus tôt, mais ça a duré jusque 1750. Il y a des villages dans lesquels le prêtre et le pasteur se partagent l'église. Tel jour c'est le rite catholique, tel jour c'est le temple protestant. Et alors on enlève les effigies les jours où les protestants sont là, et on remet les sculptures quand ce sont les catholiques, et le prêtre de ce village de la province de Liège explique que pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça, puisqu'il n'y a qu'une église.
Un manque de Dieu, mais donc, finalement c'est le même Dieu quelque part.
Alors que...
Hein, et qui a raison.
Ah ça, l'archive ne le dit pas, voilà. Heureusement. On ne peut pas, on doit se garder de juger une archive. C'est ça la frontière qui est complexe. Même si c'est 300 ans, 400 ans en arrière, juger le personnage qui écrit, lui donner une étiquette, lui donner... Non, non. C'est un homme qui s'exprime en commettant sans doute parfois des erreurs d'appréciation, en exagérant, mais c'est un homme qui s'exprime, qui vit, qui...
Retour dans les caves, second sous-sol.
Voilà, c'est ici que sont conservées les minutes et répertoires de notaire.
Et donc les minutes et répertoires de notaire, depuis
leur existence, donc les plus anciens remontent au XVIe siècle. C'est une institution, le notariat est une institution qui remonte au Moyen-Âge. Hein. Elle a été créée en Italie et l'institution notariale s'est développée petit à petit par le biais des notaires pontificaux, puis des notaires impériaux, et a remonté tout doucement vers le nord de l'Europe. Et ça s'est implanté tout de même. Et ces notaires ont été reconnus, je dirais, et d'utilisation fréquente à partir du XVIe siècle.
Et ceci jusqu'à l'époque contemporaine, ou je veux dire, les documents les plus récents, ici
Ma date, c'est d'il y a 75 ans.
Pas. 75 ans, pourquoi
75
Parce que la loi telle qu'elle vient d'être... il y a 10 ans maintenant qu'elle a été modifiée, prévoit que les notaires sont tenus de verser les minutes qui ont plus que 75 ans, obligatoirement.
Obligatoirement.
Et facultativement, celles qui ont entre 75 et 50 ans.
D'accord, donc ça veut dire que si je veux retrouver, par exemple, un titre de propriété de mes grands-parents, on va dire, donc d'il y a 60 ans, il peut être à l'étude, comme il peut être déjà au...
Tout à fait, tout à fait. Et pratiquement toutes les semaines, nous avons des demandes de notaires qui sont en train de préparer un acte et qui doivent trouver un rétroacte qui est conservé chez nous.
Vous avez trouvé quelque chose, justement, regardez. Du notaire...
Napoléon Malu.
Napoléon Malu.
Donc 1800... ici, c'est un volume...
1843, le volume 2.
Voilà. Donc c'est un volume, si vous l'ouvrez, tous les actes de ce notaire pour l'année 1843 sont reliés.
30 arts de prairie, 12e 30 arts de prairie, Audi, je ne sais pas lire le...
Audi
Nodué.
Visiblement, là, vous êtes tombé sur une vente de propriété foncière assez importante.
Assez importante,
parce que je vois que le nombre de lots.
18e, 19e, 28 arts, 49 arts. Oui, là, on est parti. Là, c'est le château là, qu'on a vendu.
Bonjour.
Alors, chère madame, avez-vous trouvé votre document ?
Pas de ma famille directe, mais bon, ben, ça ne fait rien. Je sais qu'il n'y a rien, donc je peux fermer une porte. je parcourais une pièce contenant les actes passés devant les échevins et féodaux du Hainaut, les minutes et copies de 1618 et puis de 1626 à 1734, pour Braine-le-Château et au titre.
C'est ça.
Et donc je vois qu'il n'y a rien sur mes ancêtres là-dedans. Donc voilà, je sais qu'au moins il n'y a rien. Mais j'ai trouvé des choses sur les familles qui se sont alliées à mes ancêtres par après. Et donc voilà.
Ça, ce sont des documents de 1723.
Oui, non, 1723, celui-ci, oui, c'est ça. Et alors, j'ai dit que j'ai rien trouvé, je ne sais pas encore, j'en ai quelques-uns à voir. Hein.
Quel sentiment vous avez en manipulant comme ça des documents de...
Ah, quand on peut avoir les originaux comme ça, je trouve que ça donne parfois un peu le frisson parce qu'on a l'impression de se retransporter un petit peu à l'époque, quoi.
Oui.
Oui.
Puis, c'est un travail de fourmi un petit peu quand même.
Oui, mais c'est un plaisir. Hein, donc, oui, c'est...
Parce que là, en fait, vous êtes venu cet après-midi, donc vous avez pris la liasse que vous aviez demandée. Et puis, ben, vous venez de passer 2 heures pour...
Pour pas grand-chose cette fois-ci.
Pour pas grand-chose.
Mais il y a des fois où on trouve des choses intéressantes. Ah oui, oui. Voilà, je vais aller le rendre parce que ça va faire mieux. Et voilà.
Quelque chose à ajouter ? 04 344 74 67. La quatrième dimension a aussi un répondeur. Alors, envie de partager vos réactions, vos émotions, vos idées ou vos rêves ? 04 344 74 67. À vous de faire de la radio.
Penché sur son ordinateur, comme sur un parchemin précieux, il y avait avec moi Pascal Vaussen, évidemment, et l'archiviste en chef de la quatrième dimension, c'est Stéphane Dupont.
Et pour ceux qui préfèrent le web, nous avons bien sûr une adresse internet, la 4 en chiffres, dimension@rtbf.be. Je répète, la 4 en chiffres, dimension@rtbf.be.
La semaine prochaine, la semaine prochaine, devinette, une histoire de bus et de musée la nuit. À très bientôt.
Saint-Mauvin.